C'est parti pour les interviews de l'IA dans Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Bismart. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Mathieu-François d'Oracle. Bonjour.
Bonjour.
On va parler ensemble d'un baromètre croissance et intelligence artificielle. Karim Bouffenec est avec nous également d'ADP, spécialiste dans la gestion des ressources humaines. Ça tombe bien, vous avez une solution dont vous voulez nous parler qui intègre un agent pour la gestion de la paye. Mais on commence avec Vianney Settini. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le CEO fondateur de Vocas, qui est une technologie qui permet en fait de donner de la voix à n'importe quel support. Par exemple, ça. C'est ça ?
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire ? Expliquez-nous.
Alors, le concept de la plateforme, c'est d'utiliser les messages vocaux que l'on utilise au quotidien sur les WhatsApp et les messages instantanés pour les utiliser dans le business et dans la communication et marketing. Donc, sur notre plateforme, on va pouvoir créer des vocas, créer des vocaux. Et ces vocaux, on va pouvoir les utiliser soit via des QR codes qu'on va pouvoir mettre à disposition dans des musées, dans des restaurants, sur des cartes de visite, par exemple, soit sur les sites Internet, pour que les gens, quand ils naviguent sur une page, puissent écouter quelqu'un qui va leur parler d'un produit ou d'un service, mais également sur les réseaux sociaux, puisqu'on convertit également tous les audios en vocaux. Donc l'idée, c'est d'utiliser à 360 degrés un vocal que l'on crée sur notre plateforme.
Alors, vous faites une différence entre audio et vocaux?
En fait, les gens connaissent les messages vocaux puisqu'on a le réflexe d'utiliser ça. Nous, on a créé le nom de Vocast pour un message audio qui est en fait un message vocal. C'est vrai que la nuance.
Parce que vous dites, on transforme des audios en vocaux. Alors voilà,
oui.
Vous m'avez perdu.
Ah oui, non, pardon. Non, c'est ça. On transforme des textes en vocaux.
En vocaux, ok.
Et on transforme des vocaux en vidéo également.
D'accord. Quelle différence quand on a un QR code comme ça qu'on scanne, on arrive sur un site internet, que derrière il y ait de l'audio ou pas, finalement ça change pas grand-chose. C'est comme ça que ça fonctionne ?
En fait, quand on va être dans un musée, souvent soit on scanne et on arrive sur une page hébergée par le musée, on va avoir du texte et là on pourra rajouter notre vocast à l'intérieur de ce texte. Donc on n'a pas besoin de s'intégrer directement au niveau du QR code.
D'accord.
Et là donc on peut écouter le vocal. Soit on scanne le QR code, on arrive directement sur un vocast donc hébergé par nous.
D'accord.
Où là on va entendre le contenu qui lui va être traduit en 15 langues grâce à l'IA. Donc l'idée c'est vraiment qu'un Italien ou un Japonais va directement écouter le contenu audio dans sa propre langue, ce qui va en fait permettre de toucher une clientèle ou des visiteurs internationaux.
Donc, ce que change l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est la possibilité de traduire les vocaux de manière automatique.
C'est ça. On utilise l'IA pour convertir tous les audios qui sont créés, soit en anglais, soit en italien, soit en français, pour les convertir en multilingue, donc en gardant l'intonation et la tonalité de la voix.
D'accord.
Pour que le contenu soit accessible vraiment dans toutes les langues. Et également sur la partie conception des vocaux. Donc, soit les gens enregistrent eux-mêmes parce que c'est un chef ou un soigneur qui va vouloir parler d'un animal qui va avoir envie de se prêter au jeu, soit c'est l'IA qui va créer l'audio, créer le contenu audio qui sera accessible aux visiteurs.
Alors, vous parlez d'outils marketing publicitaires. Ça peut être aussi un outil d'accessibilité ?
Alors effectivement, c'est fait pour les malvoyants, notamment quand on arrive dans un lieu, ça peut être un outil qui permet d'indiquer où se trouve tel ou tel espace, d'accéder à des contenus
parce
audio.
Parce que ça fait partie des vrais grands sujets aujourd'hui face au handicap, c'est de pouvoir donner plusieurs types d'interfaces en fait. Aujourd'hui, quand on a un site internet qui n'est que en vidéo ou qui n'est que textuel, de pouvoir offrir une alternative. C'est très important.
C'est vrai que c'est une des possibilités de notre plateforme. Comme on peut également créer des vocaux pour les enfants, pour les ados qui, eux, sont friands de ce genre de technologie, mais également pour les malvoyants. Donc, on peut facilement créer ça, puisque c'est assez simple. Au final, les gens peuvent s'enregistrer très facilement, alors que parfois, en vidéo, ils vont avoir plus de mal. Mais créer un vocal, c'est quelque chose qu'on fait très naturellement.
Ouais.
Et donc, l'idée, c'est de pouvoir en créer pour tout cas d'usage. Donc là, on parle beaucoup de diffusion, mais on fait également donc de la collecte de vocaux. Je vais vous donner un cas d'usage assez intéressant sur un fleuriste en ligne. Quand on va acheter un bouquet de fleurs, on va pouvoir désormais enregistrer un vocal lors de la transaction. La personne qui reçoit le bouquet va pouvoir écouter ce vocal via un QR code.
Ah, d'accord. Au lieu de juste laisser un petit mot de la part de Delphine, je pourrais laisser un message vocal avec le bouquet.
C'est ça. L'idée de la plateforme, c'est d'humaniser un petit peu les transactions qui sont un peu froides. Souvent, effectivement, on peut rajouter un petit texte, que ce soit pour un bouquet de fleurs ou autre, et c'est assez froid. Et au final, quand on reçoit le bouquet, qu'on peut écouter un message de son fils, ou on va vraiment avoir de l'émotion qui se crée. Mmh. Et en fait, on vient rajouter ça dans les transactions qui sont très digitales. Et donc ça, on va pouvoir le dupliquer pour les cagnottes en ligne, par exemple. Si je mets X euros sur une cagnotte en ligne, au lieu de mettre simplement un petit texte, je vais pouvoir rajouter un message d'une minute, deux minutes, pour que la personne ait beaucoup d'émotions à la fin, avec tous ses vocaux, en plus de l'argent, à écouter.
D'accord, très bien. Une réaction, messieurs, sur cette technologie, cette interface vocale, c'est vrai, qui semble tellement évidente.
Je repartirai avec un, j'ai envie de tester.
Oui.
J'ai envie de tester, essayer, mais je pense que...
Mais pourquoi faire ? Vous feriez quoi avec ça, Karim ?
J'ai une idée sur laquelle on pourrait avoir un cas d'usage. Ah. Par exemple, je vous explique. Quand on fait des rendez-vous business, notamment sur des salons, par exemple Vivatech qui arrive dans deux semaines,
oui.
Avec ces vocaux, avec ces QR codes vocaux, on va pouvoir, à la fin de notre entrevue, imaginer par exemple un business entre nous, on va scanner un QR code vocal qui est vierge et unique. Moi, je vais le coller sur ma carte de visite. Ensemble, on va enregistrer un vocal pour se récapituler ce qu'on s'est dit. Et je vais vous le donner. Quand vous allez rentrer chez vous après X rendez-vous, vous allez pouvoir scanner ce vocal, réécouter ma voix avec la photo qu'on aurait prise ensemble, par exemple. Et du coup, ça va vous permettre de vous rappeler de ce qu'on s'est dit. Ça va humaniser, en fait, une carte de visite.
Oui, ou ça peut créer un petit mémo, disons.
C'est un mot vocal, donc encore une fois, traduit dans votre langue. Et donc ça marche très bien pour les rendez-vous salons. Et moi, de mon côté, je vais avoir la liste de tous les vocaux que j'ai faits avec toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et je vais me rappeler de beaucoup de subtilités qu'on s'est dites. Alors que sinon, mince, qu'est-ce qu'on s'était dit ? Ah oui, il faut que je fasse ça, mais ça reste léger.
Bon, Karim, c'était à ça que vous pensiez comme usage ?
Alors, pas forcément. On est à l'ère du zéro papier. On tente vers du zéro papier, ouais. La digitalisation. On a dans nos activités, on remet beaucoup de documentation, alors souvent en ligne, mais parfois aussi en papier. Ça peut contribuer. Je pense que ça peut permettre d'avoir une empreinte un peu plus green par rapport à ça. Toujours avoir cette relation. Et est-ce que, voilà, après, il faudra regarder, est-ce qu'on peut véhiculer tout ce qui nous passe par la tête au travers de ce QR code qui évite de transférer ou de transmettre un dossier papier, des tonnes de documents. Donc, je suis en train de réfléchir.
Ok.
Non, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tout ce qui permet de créer de l'émotion dans l'interaction, que ce soit entre des marques et des consommateurs ou entre les entreprises et des collaborateurs, est effectivement à promouvoir. Après, je pense que là où il faut qu'on travaille ensemble, c'est comment on intègre ça dans une vision 360 degrés de la relation qu'on peut
avoir. Ah, ça y est, vous voulez commencer à travailler ensemble. Ok, alors, Karim Bouffenec, on va s'intéresser à vous maintenant. Directeur senior gestion produit chez ADP pour l'Europe de l'Ouest. Je disais que vous intégriez un nouvel agent IA pour la gestion de la paye. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça améliore? Qu'est-ce qui fait cet agent?
Alors, Dans la question, il y a une partie de la réponse. Qu'est-ce que ça permet de faire? Qu'est-ce que ça solutionne? Qu'est-ce que ça va rendre plus simple? Chez ADP, on accompagne donc nos clients partout dans le monde, sur 140 pays autour de la paye et des ressources humaines. C'est un peu plus d'un million 100 000 clients, 42 millions de salariés qui sont payés chaque mois. Et on ne fait pas de la techno pour de la techno. Donc le besoin premier, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut rendre plus simple dans le quotidien d'un expert RH, d'un gestionnaire de paye. Qu'est-ce qu'on peut solutionner comme problématique? Le monde de la paye des RH, c'est un terrain de jeu qui est formidable pour nous. Un des cas d'usage, il y en a par centaines, mais un des cas d'usage, c'est autour de la paye et effectivement avec cette solution qu'on propose à l'ensemble de nos clients sur la gestion des écarts de paye. Quand vous êtes gestionnaire de paye dans une entreprise service RH, entre le 20 et le 25 du mois, C'est un enfer.
Au secours.
C'est au secours. Qu'on ait une entreprise de 10 salariés, 100 000, 10 000, 100 000, on a une fenêtre de tir très petite sur laquelle on doit s'assurer qu'on va payer les collaborateurs avec le bon montant, qu'on va être en temps et en heure par rapport aux obligations et au calendrier du législateur. Et se dire, est-ce que le bulletin de ce mois-ci de Karim Bouffenec par rapport au mois dernier, est-ce qu'il y a un écart? Est-ce qu'il est justifié? Comment on est capable de détecter une erreur? Il y a une époque où on prenait les bulletins, on les mettait par transparence, on regardait s'il y avait une ligne en plus, une ligne en moins, ou avec la bande...
On n'en est plus là quand même.
On n'en est plus là. Donc le travail sur la détection, l'idée c'est de détecter avant que l'erreur se produise. Pas que le salarié se rende compte qu'il y a une erreur. Mmh. On a oublié de payer des heures supplémentaires, on a changé son taux de prélèvement à la source, ça n'a pas été pris en compte. Il y a 1000 raisons pour lesquelles on peut avoir un écart de paye.
Je ne vous le fais pas dire.
Et l'IA, c'est venir c'est pas remplacer l'humain, c'est pas remplacer le gestionnaire de paye ou le professionnel RH, c'est de venir s'asseoir à côté. C'est un copilote, c'est un majordome qui va lui dire, il faut l'expertise de l'humain parce qu'il y a des exceptions, parce qu'il faut garder une vigilance sur l'éthique, on peut en parler, hein, de l'usage de l'IA, parce qu'il y a tous ces sujets-là sur lesquels on va devoir avoir besoin de cette expertise de cet humain, mais on a besoin d'avoir cet œil et cette intelligence artificielle qui va permettre de dire, sur ce bulletin-là, parmi 1000 bulletins, j'ai repéré quelque chose de suspect. Mmh. Et c'est ce qu'on propose à nos clients, c'est ce que nos clients nous demandent. Rendez-nous la vie plus simple. Faites-nous gagner une minute, une heure, une journée dans mon calendrier et dans mon quotidien.
Mais c'est-à-dire, on met un agent où, précisément, dans son système de paie ?
Alors, l'agent va être présent sur nos applications, sur notre système de paye, sur nos applications paye. C'est vrai en France, mais c'est vrai pour l'ensemble des clients qu'on accompagne au travers le monde sur 140 pays avec les applications. Donc, le système de paye va permettre de dire à l'utilisateur et au client, sur tes 100 bulletins de paye que tu as contrôlés, il y en a 92, on s'en est occupé, tout va bien. Je te les mets de côté. Et il y en a 8 où il y a quelque chose de suspect. Pas forcément une anomalie, pas forcément une erreur, mais là, j'ai besoin... Tu te concentres sur ces 8-là et pas sur les 92 qu'on a mis de côté et pour lesquels tout va bien.
D'accord. Et aujourd'hui, c'est un nouveau produit, c'est tout récent. Enfin, vous avez déjà un niveau d'adoption ?
Alors, on a un niveau d'adoption. Cette solution donc, qui s'appelle ADP Assist, parce qu'on assiste l'utilisateur.
Ouais.
Elle est en place aujourd'hui sur nos solutions globales, c'est-à-dire les clients qui utilisent nos solutions au niveau international. Elle va être mise à disposition de nos clients en France à partir de cet automne, donc entre septembre et le mois d'octobre. On a un taux d'adoption aujourd'hui, on a des gains qui sont observés. Alors les gains observés, il faut les prendre un peu avec pincette, ça dépend d'où on vient, ça dépend de l'organisation d'une entreprise.
Mais l'agent, il est autonome ? Il fait les corrections lui-même ?
Alors l'agent peut être autonome, peut faire les corrections, peut les suggérer et laisser la main à l'utilisateur. On essaye de ne pas avoir une IA intrusive, d'avoir une IA sur laquelle on va pouvoir mettre le curseur en fonction de... du souhait de l'entreprise, de son appétence, de sa maturité. Et on voit en fonction des géographies, des pays, peut-être des générations d'utilisateurs aussi, où les attentes ne sont pas les mêmes.
Parce que le principe de l'IA agentique, c'est de dire vraiment, on laisse faire le job à l'agent.
Alors,
donc là, vous n'allez pas jusque-là.
On va jusque-là. On a eu effectivement ces générations d'IA, entre l'IA, l'IA générative et maintenant l'IA agentique, qui dit, j'ai détecté une anomalie, je sais comment la résoudre, je peux le faire pour toi. Est-ce que l'utilisateur est toujours prêt à ce que l'IA fasse pour lui ou corrige ? Parce qu'il se dit, allons-y mollo, il y a peut-être quelque chose qu'il faut regarder d'un peu plus près. Mais c'est une IA et c'est un agent qui est capable de fixer l'anomalie, de résoudre l'anomalie. Ou si ça nécessite une action humaine, parce que la valeur qui a été saisie ou l'information, il manque une date dans un dossier, ce n'est pas l'IA qui va deviner la date, c'est d'aller mettre le doigt au bon endroit et d'aller guider l'utilisateur jusqu'au la solution de la problématique qui a été détectée. Mais on est sur de l'IA agentique qui permet de faire effectivement le fixe de l'anomalie qui a été détectée.
L'IA agentique, vous voyez les choses se passer comment au niveau de l'adoption en entreprise ? Il y a encore des réticences à laisser des agents faire des choses pour nous ?
De moins en moins. Nous, ce qu'on voit, c'est vraiment, on passe d'une IA qui répond à une IA effectivement qui prend des décisions.
Ouais.
Chez Oracle, on a plus de 1000 agents disponibles aujourd'hui dans nos applications. Et en termes d'adoption, on a 60% de nos clients qui ont déjà des agents autonomes en production, en fait. Mmh. Donc, on a vu vraiment une accélération sur les 12 derniers mois. Et clairement, c'est ça qui permet d'avoir de l'impact sur les processeurs cœur d'entreprise. Donc, on est complètement aligné avec ça. Et oui, on voit vraiment un gros déploiement sur ces agents-là aujourd'hui.
Il y a des freins quand même encore,
alors,
hein
alors, alors oui, il y a des freins. On a... notre présence sur 140 pays nous permet d'avoir une lecture assez fine de comment ça se passe. Quelle est cette appétence ? Quel est ce taux d'adoption ? On a mené une étude qu'on mène tous les ans et qui est publiée aujourd'hui pour l'année 2026 sur 36 pays, 39 000 salariés qui ont été questionnés, 1000 salariés en France, sur l'IA dans votre quotidien et aussi dans le monde professionnel. Ce qu'on observe aujourd'hui, 15% des salariés questionnés n'utilisent jamais l'IA, même à titre personnel. Au niveau monde, on passe à 30% en France. On a des taux qui nous montrent que c'est en train de prendre, c'est en train de monter. Il y a des disparités, donc faut encore une fois, avec des pincettes, prendre ces valeurs-là. Il y a des disparités. Les pays émergents, l'adoption de l'IA se fait beaucoup plus rapidement. En fonction des secteurs d'activité, en fonction des générations, l'adoption se fait plus rapidement. Le premier, peut-être, point de blocage qu'il faut réussir à casser, c'est le sujet de la confiance. Quelle que soit la thématique autour de l'IA, si on arrive à gagner la confiance de l'utilisateur avec une IA éthique, une IA qui encore une fois, qui n'est pas juste de la techno, mais qui va apporter une vraie aide, on arrive à débloquer ces points de blocage.
Alors, Mathieu François, donc Regional Vice President Cloud, Data and AI chez Oracle. On va parler pas de la confiance, mais de la croissance avec l'intelligence artificielle, puisqu'il y a un baromètre qui a été réalisé par OpinionWay, donc en partenariat avec Oracle, mais aussi Soprasteria, DMB et le groupe BPCE. Quels sont les enseignements qui vous semblent intéressants de partager avec nous de cette étude?
Alors, c'est une étude qui est organisée par l'AXEL, l'Association de l'économie numérique. Et effectivement, on est adhérent et on est partenaire de cette étude-là. Ce qui est intéressant de constater, c'est que là, vraiment, l'IA maintenant est entrée dans l'entreprise et on est vraiment sur le moment du passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, 98% des dirigeants nous disent dans l'étude que l'IA a contribué à la croissance récente de l'entreprise. Donc, on voit vraiment une transformation.
Quand on parle de croissance, on parle de quel type de croissance?
Non, on parle vraiment de la croissance économique de l'entreprise. Voilà. Et ce qui est intéressant cette année par rapport...
Ça, c'est nouveau.
Ouais. Et c'est nouveau. C'est-à-dire qu'effectivement, là où on était plutôt sur une IA qui est automatisée et qui donc allait permettre de faire des économies, ça reste vrai, mais on voit aujourd'hui maintenant aussi, et finalement plus fortement, des dirigeants qui nous disent « moi, l'IA m'a permis de découvrir des nouveaux marchés, d'accélérer et donc de générer de la croissance ».
D'accord.
Donc c'est le gros changement cette année dans ce baromètre.
Et on parlait des freins. Est-ce qu'il y a toujours des freins très persistants et sont-ils pertinents? Parce qu'ils peuvent l'être. Hein.
Alors, il y a toujours des freins. Effectivement, les quatre grands freins sont la protection des données, les attaques cyber. Donc, que deviennent mes données? Est-ce qu'elles peuvent être attaquées? La souveraineté est de plus en plus au regard de l'actualité qu'on connaît tous. La réglementation, est-ce que ce que je fais respecte la réglementation, respecte le droit du copyright? Et puis la fiabilité, on parlait de confiance, effectivement, la fiabilité des résultats. Donc ça reste encore des freins qui font que certains accélèrent moins que d'autres. Mmh. On a 16% des entreprises qui nous disent bien maîtriser tous ces concepts-là et avoir géré les freins. Ça veut dire qu'il reste quand même une grande majorité qui doit traiter.
Mais ça veut dire aussi qu'il faut apporter des technologies de confiance.
Exactement, exactement. Et donc, c'est pour ça que, en fait, ce qu'on constate et ce qui est intéressant pour nous, c'est que entre ce qu'on voit dans le baromètre et ce qu'on voit, nous, dans la vraie vie avec nos clients tous les jours, c'est vraiment très aligné. Et donc, par exemple, aujourd'hui, pour pouvoir vraiment déployer de l'IA avec des agents autonomes, il faut d'abord en fait avoir un socle de données qui est protégé, qui a le bon niveau de fiabilité d'information. Et finalement, le choix, il est plutôt sur quel va être mon socle de données, quelle va être ma plateforme d'intelligence artificielle, plutôt que choisir un modèle. Parce qu'en réalité, on va avoir besoin de mixer plusieurs modèles pour obtenir les résultats qu'on veut.
Ça, c'est quoi? C'est les conseils que vous donnez si on veut démarrer un projet d'IA?
Ouais, exactement. C'est le point le plus important, en fait, c'est qu'il faut que ça ait de l'impact. Donc, il faut que ce soit dans les processus cœur de métier de l'entreprise et non pas seulement sur des choses périphériques. Et donc, deux, avoir la bonne plateforme de données et d'interaction des différents agents pour pouvoir bénéficier des avantages tout en étant capable de couvrir les problématiques de souveraineté, de réglementation, etc.
Vous diriez que c'est un problème de ne pas se lancer dans l'IA aujourd'hui pour une entreprise comme on pouvait le dire pour la numérisation, ce que vous appelez la digitalisation, sais, dans le business?
Clairement, aujourd'hui, de toute façon, on a 83% des dirigeants qui nous disent que l'IA est un axe d'investissement majeur. Donc, je pense que tous le comprennent. Enfin, en tout cas, une très grande majorité le comprend. Et nous, on voit vraiment la différence. On commence à voir des retours sur investissement pour les clients qui ont vraiment investi, qui ont vraiment commencé à déployer ce genre d'agent, qui est très supérieur aux autres, en fait. Donc, oui, clairement.
Mais il faut y aller quand même doucement. Si je vous entends, c'est quand même beaucoup de process à respecter, des bonnes questions à se poser. Ouais. On ne se lance pas comme ça dans un projet d'intelligence artificielle.
Non, non. Alors, il faut de l'accompagnement.
On ne se lance pas tout seul non plus.
On ne se lance pas tout seul, effectivement. Il faut de l'accompagnement. Il faut faire monter les gens en compétences. Il faut que les utilisateurs comprennent aussi ce que ça apporte et quelles sont les limites et les choses à vérifier pour que ça se passe bien. Donc nous, ce qu'on conseille effectivement, c'est de commencer de manière plutôt unitaire sur quelques processus métiers avant de déployer plus largement. Et après, on a deux manières de faire chez Oracle, soit il y a des agents qui sont disponibles clés en main, donc j'en parlais tout à l'heure, il y en a à peu près 1000 aujourd'hui, soit on est capable de les construire. Donc en fait, on a la capacité, au travers de l'infrastructure, de la plateforme de données et des applications qu'on a, à démarrer de différentes manières en fonction de la maturité des clients et des processus métiers qu'on veut adresser.
Une réaction là-dessus ? Vous êtes en phase avec ça ?
Oui. Alors, très en phase. Je pense qu'il y a il faut être très clair avec les clients qu'on accompagne sur les clés de succès. Alors, on peut en avoir plusieurs, mais tu en as cité quelques-unes. Si on ne sait pas répondre à la question « qu'est-ce que je cherche à résoudre comme problème, à simplifier, à solutionner ?», c'est que ce n'est pas encore le moment de déployer une IA.
Ouais.
C'est vraiment le point de départ. On développe des agents, on fait de l'IA, on développe des agents parce qu'il y a du métier derrière, parce qu'on travaille sur du métier, c'est au service du métier. Mmh. Développer de l'IA, ça peut aller très vite. Il y a plein d'entreprises qui font ça. On peut avoir des agents développés en quelques heures. Dans les clés de succès, c'est le choix de mon partenaire. On parle d'éthique, c'est un point qui est primordial. Quelle est l'éthique de l'usage de la data ? On ne va pas reparler du RGPD que tout le monde, toutes les entreprises connaissent maintenant, mais est-ce que je peux tout faire avec de l'IA ? La réponse est non, on le sait tous. Donc, le choix du bon partenaire, où il y a une vraie gouvernance, où il y a une vraie éthique sur l'usage des informations, une vraie transparence sur ce que font les agents. Et il y a le sujet de acculturer les utilisateurs. Le taux d'adoption, il est aussi en fonction de comment je les accompagne. Il y a l'effet nouveauté. Tout le monde va essayer le premier jour où ça va arriver. Et si on n'a pas accompagné les utilisateurs, tout le monde ne sait pas prompter. Mm. C'est pas forcément inné. Donc, sur jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut demander, ne pas être frustré quand on va avoir une non-réponse, parce qu'on apprend aussi aux IA à ne pas répondre quand elle n'a pas la réponse. C'est ces limites et ces garde-fous qu'on met en place. Et ça fait partie de l'accompagnement. Et le dernier point, c'est peut-être ne pas y aller par étapes. Un premier cas d'usage.
Y aller par étapes, vous voulez dire.
Y aller oui. par étapes. Un premier cas d'usage et pas se dire je vais mettre de l'IA du sol au plafond en quelques semaines.
Merci beaucoup. Vous avez parlé du RGPD. Ben justement, on va continuer à en parler juste après notre séquence. Merci à tous les trois d'avoir été ici pour les interviews de l'IA. Donc Mathieu François pour Aura, Karim Boufnek pour ADP et Vianney Cettini pour Vocast. Donc à suivre cette Europe numérique qui se construit.